Bonjour, et bon, nous allons commencer ce débat sur la magie et les magiciens. Ça s'appelle exactement « Pouvoir sur soi, pouvoir sur le monde ». Alors, à mes côtés, pour discuter de ça, il y a Charlotte Bousquet, à ma droite, passionnée d'histoire, de mythologie, se jouant un peu des étiquettes. Elle s'est promenée dans la littérature jeunesse, la bitlit, la relecture des contes, la fantasy, le thriller écolo, le fantastique, même le roman d'amour. Et dernier né, qu'est-ce qu'on pourrait dire, La Lune et l'ombre, le deuxième tome paru.
Le dernier, c'est Fanny, qui est sorti le 29 mai, donc le deuxième jour des Imaginales, qui est un roman contemporain.
Et chez
Chez Milady.
Voilà. Patrick Maxper, d'abord rocker, puis auteur BD, écrivain enfin. Deux grandes sagas, les Hauts Conteurs avec Olivier Perru chez Scrinéo et Les Héritiers de l'Aube chez Scrinéo aussi. Trois tomes.
C'est ça.
Et ça va continuer ?
Non, c'est une trilogie.
Alors, une nouvelle saga bientôt. À gauche de Patrick, Cindy Van Wilder, trois tomes des Outrepasseurs, dont le premier, Les Héritiers, a obtenu l'année passée le prix Imaginal Jeunesse. Déjà un beau pas dans une belle carrière. Et enfin, faut-il encore vous la présenter, Robin Hobb, sans doute une des plus célèbres écrivains de fantasy, avec des sagas extraordinaires qu'elle rassemble en fin de compte sous le titre du Royaume des Anciens pour l'une, avec l'Assassin Royal, les Aventuriers de la Mer, les Cités des Anciens, et une nouvelle trilogie qui vient de commencer d'ailleurs, The Fates and the Fool, et une deuxième trilogie, Le Soldat Chaman, 8 volumes en français, et je crois que Flammarion d'ailleurs réédite aujourd'hui toute la série. Et encore d'autres choses sous son nom, sous le nom de Megan Lindholm, sur son pseudo, le Peuple des Rennes. C'est la cinquième fois, je crois, qu'elle vient aux Imaginales. Elle a eu déjà un prix pour la nouvelle avec Retour au pays et un prix pour le roman avec La déchirure et le cavalier rêveur, qui était le premier volume en anglais du Soldat Chaman. Magie, donc. Alors, la magie est évidemment une tarte à la crème de la fantaisie, parce que, je voudrais vous poser la question, Robin, c'est une tarte à la crème parce que la magie, c'est pratique, parce que c'est un adjuvant facile pour sortir les héros de certaines difficultés, ou parce qu'il faut bien qu'il y ait un pouvoir agissant dans des mondes sans vraie technologie. Pourquoi la fantaisie s'oblige-t-elle à parler de magie, à utiliser la magie ? Et voilà, sous les tambourins et les fifres.
It is hard for me to imagine a fantasy book that does not have magic of some kind, whether we are accepting the existence of fantastic animals or giving the heroes or the villains extraordinary powers which no one in our world possesses. I do not think that magic makes it easier to write. In some cases, it makes it harder because the writer has to come up with the rules of the magic and be consistent with it throughout the book. And that can be a challenge to remember as well as to employ.
Il m'est difficile d'imaginer un livre de fantasy qui ne n'utiliserait pas de la magie sous une forme ou une autre. Que ce soit par exemple sous la forme d'animaux fantastiques ou de doter les héros ou les adversaires de pouvoirs extraordinaires que personne ne possède dans notre monde. Je pense que c'est quelque chose que nous acceptons dans le genre. Je crois pas que la fantasy rende nécessairement une histoire plus facile à écrire. Au contraire, dans certains cas, ça le rend plus difficile. C'est-à-dire que l'auteur doit inventer un certain nombre de règles qui régissent cette magie et faire en sorte qu'elle soit cohérente à travers le livre. Et parfois, c'est un véritable défi de se rappeler tout ça et de l'utiliser dans le cadre de l'histoire.
Mais s'il dit justement ces règles, c'est facile à imaginer, c'est facile à les suivre. Pour faire une saga de 3 tomes, on suit un petit carnet dans lequel vous avez marqué tout ce qu'il fallait savoir sur le monde magique.
Non, absolument pas. Je ne suis absolument pas organisée à ce point. Donc, mon organisation a plutôt été sur le fait, en développement au cours de l'écriture. Et je pense que, de toute manière, dans la magie, il n'y a rien de facile. On ne peut certainement pas claquer des doigts et dire « Voilà, c'est bon, la situation est résolue, les héros sont sains et saufs. » Non. Parce que sinon, honnêtement, ce n'est pas drôle pour vous et c'est encore moins drôle pour nous. Donc oui, en plus, je pense que dans toute magie, il y a aussi un prix à payer. Et c'est ça surtout qui est intéressant à développer dans cette thématique.
Chez vous aussi, Patrick, il y a un prix à payer ?
Oui, certainement. Si je peux revenir très rapidement sur la question précédente, je trouve également, comme mes camarades, que ce n'est pas un processus de facilité. Dans mon cas, alors c'est carrément tout le contraire, puisqu'en général, mes héros, eux, ne sont pas des magiciens. Ou alors vraiment, des magiciens débutants, les héritiers de l'aube dans ma dernière trilogie, sont effectivement les descendants de ce que j'appelle les primo-sorciers, la première caste de sorciers au monde, mais ils ne maîtrisent absolument pas leur pouvoir à la temps. Et pour les hauts-compteurs, la précédente saga, c'était encore pire pour les héros, puisqu'eux n'étaient que des êtres humains normaux. Donc c'est tout le contraire. Ils sont opposés à des forces maléfiques et surnaturelles, et ils doivent faire appel plutôt à leur habileté, à leur courage et à l'astuce pour s'en sortir, quoi. Alors ça ne suffit pas toujours, évidemment, mais... Du coup, j'ai perdu de vue la question qui me concernait. C'était, je suis désolé, j'ai très peu dormi, on a terminé en boîte. Ça se voit d'ailleurs.
On dirait un sorcier, les yeux injectés de sang.
Oui, totalement. On dirait que j'ai la myxomatose. Je suis désolé de me présenter à vous ainsi.
On parlait du prix à payer.
Oui, tout à fait. Alors, pour ce qui est des forces maléfiques, oui, évidemment, il y a un prix à payer parce que... comment dire, moi, en général, je m'attache à développer des caractères assez ambigus concernant les méchants. Et effectivement, ils ont ce qu'on appelle communément une âme. Donc, ils y laissent beaucoup de plumes au passage. Oui.
Charlotte, est-ce que la magie, en fin de compte, s'apparente à une volonté de pouvoir primitif sur le monde ?
Pas vraiment, je dirais que la magie, du moins dans mes univers, fait partie intégrante du monde et fait partie intégrante des personnages. Donc, s'il y a un prix à payer, c'est simplement d'être capable ou non de l'assumer et d'assumer sa propre nature. Mais pour moi, j'ai tendance à considérer que c'est... la magie est là. Alors, je suis en train de me dire que c'est un côté Star Wars, vous savez, la force est là tout autour de vous. Voilà, mais en fait, je l'utilise en tout cas dans mes livres comme quelque part comme un trait de caractère de mes personnages, un trait de caractère qui est plus ou moins assumé et qui peut effectivement plus ou moins conduire après à une quête de puissance, mais ou une volonté de puissance. Mais pour moi, cette volonté de puissance, elle est inhérente à l'histoire de la personne. Ou à l'histoire d'une nation, mais en tout cas, en l'occurrence, puisqu'on parle d'individu, c'est l'histoire d'une personne ou d'une divinité, ses failles et éventuellement aussi sa mégalomanie. J'ai bien répondu, ça va ?
Oui.
Oh, génial, parce qu'on est dimanche, donc c'est pas toujours simple.
Robin, la magie est en fin de compte, et c'est paradoxal dans les œuvres de fantasy, est en fin de compte rationalisée. Elle est logique dans le monde d'écrire, en tout cas si l'écrivain met en place des techniques littéraires qui rendent le système magique sophistiqué et vraisemblable. C'est bien ça que vous faites ?
Oh, I think the magic system must be coherent and believable. It must have rules and limits, or the writer can cheat the reader. I do not like stories in which we are told the magic cannot be used in this way, and then in the final scene, he tries very hard and uses the magic that way. There has to be a rule and a limit, and conveying the rules and the limits to the readers can be difficult to do this in a natural way, but it's very important that fairly early in the story the readers understand how the magic will work and how it will not work.
Je pense que pour construire un système de magie qui soit cohérent et crédible, il faut qu'il y ait des règles et des limites. Sinon, c'est tricher avec le lecteur, et le lecteur se sent abusé. Je n'aime pas les histoires où, par exemple, dès le début, on vous dit « la magie ne peut pas fonctionner de telle manière », et puis dans la scène finale, c'est vraiment très très fort, il se concentre, et puis d'un seul coup, ça marche. Je pense que la magie doit présenter des règles et des limites, et transmettre, communiquer et montrer au lecteur ces règles d'une façon naturelle, ça peut être assez difficile. Mais je pense qu'il est très important, très tôt dans l'histoire, de montrer au lecteur comment la magie fonctionne, ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire.
Et pour montrer, ce système magique, Patrick, le meilleur peut-être des moyens, c'est d'utiliser un apprenti, un jeune homme, une jeune personne qui découvre petit à petit ses pouvoirs. Est-ce que c'est bien comme ça que l'écrivain présente son système, son référent magique dans un livre ?
Pas automatiquement. Il est certain que la case initiation est toujours très très importante dans notre genre littéraire. Mais bon, je trouve le procédé un petit peu attendu ou convenu. Donc moi, je m'attarde pas systématiquement. Pour les héritiers, par exemple, l'initiation des héritiers, qui se déroule dans le tome 1, où, pour le coup, le primo sorcier que je présente est Nicolas Flamel. Un Nicolas Flamel réellement bienveillant, mais très différent de celui que vous connaissez dans Harry Potter. Je consacre un chapitre entier, mais après, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de montrer l'évolution de tout cela au lecteur par d'autres biais, par le biais narratif ou simplement par le biais d'autres personnages, quoi.
Cindy, comment vous faites-vous ? C'est aussi à travers un apprenti, quelqu'un qui découvre ses pouvoirs ?
Oui, oui, je suis tout à fait dans ce premier volume. Je suis tout à fait partie donc sur la figure donc de Peter, qui découvre qu'il appartient donc à une société secrète qui s'appelle donc les Outrepasseurs. Ce que je ne voulais pas, en revanche, c'est que cette initiation soit vécue par un dialogue, ou du moins une rencontre entre deux personnes. Entre, d'une part, l'apprenti, le jeune innocent, si on peut dire, et de l'autre, la personne qui sait tout, genre le vieux magicien qui arrive bien sûr à un point nommé pour tout révéler. Non, ce que je voulais, c'est que cette initiation soit réellement marquante, elle soit vécue aussi bien dans le cœur que dans les tripes du personnage. Et d'ailleurs, je pense que, quelque part, ce premier tome a été marquant à ce point de vue-là.
Et Charlotte, qui est habituée à écrire pour la jeunesse et qui utilise souvent comme personnages principaux des adolescentes et des adolescents, c'est aussi par ce biais-là que vous introduisez votre système magique dans certains de vos bouquins ?
Non, je crois pas. Je sais pas. En fait, si vous pensez... j'étais partie sur de l'adulte. Mais bon, d'accord. Donc, Lune et l'ombre. Trilogie, effectivement, une trilogie pour la jeunesse qui est à la fois dans notre monde réel et dans des univers de femmes peintres, en fait, j'ai pas pensé à un système de magie, j'ai pensé à des logiques d'univers. Lune, à partir du moment, Lune est une jeune fille dont l'une des ancêtres, en fait, a créé un être vivant à partir d'une peinture. Donc, c'est une lignée de personnes qui sont, oui, peut-être des magiciens, mais qui sont des gens qui sont capables de voyager dans les mondes des peintres. Lune va découvrir ses pouvoirs, mais elle le fait, je dirais, un peu plus à la dure, façon, genre, on vous apprend à nager en vous mettant dans le grand bassin, et puis bah, si tu coules, c'est tant pis pour toi. Et donc, j'ai pas de dialogue. C'est vrai qu'il n'y a pas du tout d'initiation par le biais d'un ancien. C'est vraiment la découverte de ses pouvoirs en même temps que la découverte de soi et de la nécessité, en fait, de survivre.
Qui possède la magie? Les icônes habituelles sont les mages blancs à la longue barbe blanche, genre Merlin ou Gandalf, ou les mages noirs, genre Sauron. Par contre, Robin, chez vous, cette opposition n'est pas aussi manichéenne. Les formes de magie que sont l'art et le vif ne sont pas aussi opposées, puisqu'elles se manifestent toutes les deux chez Fitz, votre jeune héros.
Well, Fitz possesses both magics. One is well respected, and the other is regarded as a rather nasty little habit. I think that when you set up the magic this way and say, "Who has it?" Perhaps it runs in the bloodlines of the royal family, but perhaps it suddenly turns up in the blacksmith's son. I like to think of it as a recessive genetic trait where it vanishes in a family line, perhaps for generations, and then when two lines come together with the recessive gene, suddenly they have a child who is capable of magic. So it helps me as a writer to think of it in biological terms, as a scaffolding, a framework to hang the rules of the magic on.
Fitz effectivement possède les deux types de magie. La première est très respectée et la deuxième est considérée comme une mauvaise habitude. Quand je réfléchis à la magie et que j'essaie de la concevoir, on peut se poser la question qui la possède et qui la présente. On peut par exemple se dire que c'est un trait qui court dans la famille royale, ou par exemple un trait qui va apparaître au hasard total chez le fils du forgeron. J'aime l'imaginer comme un caractère génétique récessif, c'est-à-dire quelque chose qui va pouvoir disparaître pendant des générations, et puis quand deux familles, deux lignées vont se rencontrer, qui présentent toutes les deux ce trait à l'état récessif, eh ben, il va apparaître chez un enfant qui va pouvoir présenter et pratiquer cette magie. L'y penser comme ça, de façon en termes biologiques, ça me fournit comme une forme, une sorte de cadre ou d'échafaudage sur lequel ensuite je peux, dans lequel je peux architecturer ensuite les règles de la magie.
Cindy, le bien et le mal chez les magiciens, c'est très séparé chez vous, ou bien aussi à l'intérieur d'un même pouvoir, il y a les deux forces?
Alors d'abord, ce que je peux vous garantir, dans mes écrits, c'est qu'il n'y a certainement pas de magicien qui soit à robe blanche ou à robe noire avec les grands chapeaux pointus et les barbes, certainement pas. Et même, il n'y aura pas de vraie opposition entre bien et mal. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des personnages qui sont humains pour moi, c'est-à-dire aussi bien avec leurs qualités que leurs défauts, et surtout leur ambition et leur désir. J'ai pas voulu justement dire directement au lecteur « voici les bons, voici les méchants ». Non, c'est au lecteur à se faire sa propre idée sur chacun d'entre eux.
Vos magiciens chez vous sont-ils des surhommes, Patrick ?
Oui, bien sûr. Bah, ce sont des magiciens, les uns, hein, quand même. Donc, mais des surhommes, mais effectivement, chez moi également, l'opposition bien et mal n'est pas du tout tranchée. Dans Les Héritiers de l'Aube, le méchant principal est un démon Fomoré, les Fomoré donc étant les forces du mal de la mythologie celtique. Mais lui, il est persuadé d'être dans son droit. Il pense que les humains qui règnent sur Terre n'ont aucune légitimité. Ben voilà, il veut donc éradiquer l'espèce humaine, mais il pense qu'il a raison. Il produit pas du mal juste pour faire du mal. Oh, je suis méchant, je vais conquérir le monde. Oui, et puis après. Il veut donc amener une nouvelle ère dans l'humanité. Et de l'autre côté, je présente ma version à moi de Merlin, qui est un Merlin franchement chelou, puisque il soumet les héritiers, dès le début, il les soumet à un chantage très clair, genre, si vous partez pas à la poursuite de la pierre d'émeraude, qui elle parle dans la tête des gens, ça aussi c'est chelou. Bah vous êtes mort, quoi. Donc les quatre héritiers se retrouvent contraints et forcés par le champion du bien de se retrouver déracinés et de partir à la, donc pour une quête évidemment périlleuse à travers les époques. Donc voilà, ce sont des surhommes, mais qui sont soumis à des passions et surtout qui ont tous de très bonnes raisons d'agir, un peu comme dans notre monde réel où finalement on est toujours en cas de conflit armé, comme hélas il s'en produit encore et sans doute pour toujours, les deux camps sont persuadés d'avoir raison. Donc pendant la dernière guerre mondiale, les forces occupantes nazies qualifiaient la résistance française de terroriste. Voilà, pour eux on était de toute façon les méchants, puisque eux ils étaient persuadés que bah, il fallait que la grande Allemagne domine le monde.
Est-ce que l'opposition chez vous, Charlotte, entre le mal et le bien n'est pas plus forte que ce que vient de dire Patrick et Cindy?
Le bien, mais vous l'avez vu où dans mes romans? Je suis désolée, mais en fait j'étais bah, dans L'une et l'ombre, oui, mais et encore, c'est une. C'est plutôt ombre et lumière. Et je pense que s'il y avait eu un quatrième tome, il y aurait peut-être eu quelque chose de beaucoup plus flou. Mais en fait, je pensais là dans Matricia et Citeria, mais surtout Matricia, à ce que disaient mes collègues, c'est que il n'y a pas d'opposition entre le bien et le mal. L'important, c'est vraiment ce qu'on fait de la magie. Et que mes personnages, mes méchants, sont surtout des êtres brisés. Donc il y a une divinité qui est quand même... torturé depuis des milliers d'années. Donc il y a au bout d'un moment de quoi quand même développer un certain stress post-traumatique. Et l'adversaire principal de Dionysia dans Matricia est une victime, en fait, dont le grand amour a été détruit, qui a été utilisé par sa propre famille, par sa propre lignée, et usé jusqu'à la moelle, donc qui est complètement fou. C'est vraiment... je dirais plus, moi, l'idée de travailler sur les failles humaines et la folie.
Robin, posséder un pouvoir de magie, c'est posséder un pouvoir sur soi, d'abord. C'est pour se sentir soi totalement. Ou est-ce que c'est pour pouvoir avoir un pouvoir sur le monde, sur ce qui est extérieur à soi?
Well, I think it has to be both. Whenever anybody is given any kind of power or authority, it has a large effect on yourself as well as everybody around you. So with magic, if I have an ability that no one else in the room has, you can either fear me or desperately want to be friends with me or want to avoid me entirely. It's going to change every interaction I have with every other human being. In my story, there is also a danger to using the magic, that it is addictive, and the addiction will eventually destroy you. So in the training the practitioners must use to be able to use the magic while resisting the pull to plunge completely into it. So in the stories that I am writing, it definitely affects the character himself and also everyone he interacts with.
Je pense que c'est les deux. Dès que l'on possède une forme de pouvoir ou même d'autorité, cela produit un effet d'envergure à la fois sur soi, mais sur tous ceux qui nous entourent. Par exemple, prenons ici dans cette salle, imaginons que je possède un pouvoir que personne d'autre n'a. Vous tous, vous allez peut-être me craindre, vous allez peut-être vouloir faire ami-ami avec moi, vous allez peut-être vouloir m'éviter entièrement. Donc, de toute façon, ça va changer l'ensemble, toutes les interactions que je pourrais avoir avec tous les autres êtres humains. Dans la série, le danger qui guette les utilisateurs de cette magie, c'est qu'elle suscite une accoutumance qui peut vous conduire à la destruction. Et donc, lors de leur formation, ceux qui pratiquent cette magie apprennent à s'en servir tout en apprenant à résister à l'attrait qu'elle exerce et l'envie de plonger tête la première dans la pratique de cette magie. Donc, dans la structure de l'histoire, un pouvoir magique va clairement affecter le personnage lui-même, mais également tous ceux avec lesquels il peut avoir une interaction.
Cindy, le pouvoir de la magie, c'est dangereux pour celui qui la possède ?
Oui, absolument. Du moins dans l'univers des outrepasseurs, ce cas d'accoutumance, d'addiction dont l'on parlait, va se manifester non seulement de manière psychologique, mais aussi physique sur celui qui s'y compte, de toute manière. Oui, de toute manière, c'est dangereux. C'est dangereux pour l'utilisateur, c'est dangereux pour ceux qui en sont quelque part les victimes, pour les proches. On revient de toute manière sur la thématique du prix à payer. Elle est dans les deux sens, aussi bien pour celui qui l'utilise que pour celui qui, quelque part, l'a subi.
N'est-ce pas paradoxal, Patrick, alors de posséder un pouvoir, mais que ce pouvoir vous ronge, ou peut vous ronger si on ne le contrôle pas?
Oui, j'ai eu un temps de réaction un peu long, je m'excuse. Paradoxal, je ne sais pas, mais enfin... Oui, il est évident que c'est comme ça, effectivement.
Mais Robin, justement, n'est-ce pas en effet paradoxal d'avoir le pouvoir de beaucoup de choses, mais de devoir le contrôler pour ne pas être rongé par ce pouvoir?
I see this in our politicians every day. sadly, I would say it is true that any kind of power, we all know the saying, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. So I think we see this in anyone who is given authority. There is always the possibility of that authority being misused. We see it in a teacher, in a religious leader, in a policeman, in a politician, in a soldier. Anytime you are given authority over somebody else, there is always the chance that you will abuse it. So with the power of a magic, it would seem to me that, of course, we would still be vulnerable to the possibility of abusing it.
C'est quelque chose qu'on voit chez les politiciens au quotidien. De façon triste, je crois que dès qu'on possède une forme de pouvoir, on court le risque d'en abuser. On connaît l'adage, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Et je pense que toute personne qui possède l'autorité, chez toute personne qui possède l'autorité, se présente la possibilité d'abuser ou de faire un mauvais usage de cette autorité. On voit ça tous les jours, on voit ça chez les professeurs, chez les dirigeants religieux, chez dans la police, dans la politique, dans l'armée, etc. Dès que l'on possède une autorité sur quelqu'un d'autre, on risque d'en abuser. Et bien sûr, c'est le cas de la magie. Si l'on en dispose, on risque toujours d'être vulnérable à la possibilité d'en abuser sur les autres.
Mais dans le monde politique, dans le monde d'aujourd'hui, il y a des organismes de contrôle du pouvoir. Est-ce que dans les mondes magiques, il y a des organismes de contrôle du pouvoir magique ?
Alors j'ai essayé dans le cycle de l'archipel des Numinés, en fait dans ma première trilogie de fantasy, j'ai essayé d'avoir une vague école de magie, d'avoir effectivement un ordre un peu de chevalerie noire, enfin de magicien noir, mais qui s'occupe d'éduquer des nécromanciens de manière à ce qu'ils ne pètent pas complètement un câble au contact des morts. J'ai essayé d'avoir donc une triade. Enfin, il y a une triade religieuse de femmes. Les trois femmes qui contrôlent généralement le destin de l'archipel des Numinés sont des prêtresses. Donc normalement, elles sont censées avoir des rites magiques et un contrôle magique. Et en fait, ça tient un demi-volume. Je n'y arrive pas. Je n'arrive absolument pas, mais je pense que j'ai vraiment un problème avec l'autorité de manière générale et que j'ai tendance à considérer que l'autorité corrompt, l'autorité en fait est une forme de violence et qu'il faut faire confiance aux gens. Mais alors là, on arrive aussi à une autre forme de paradoxe. Mais l'un de mes personnages, Angelo, est un nécromancien. Donc qui a effectivement été éduqué dans un ordre dédié, qui a été chasseur de Lamia, qui sont des sortes de vampires, qui est tombé amoureux d'une Lamia parce qu'il s'est aperçu qu'il n'y avait pas de limite, enfin que c'était pas noir et blanc, que c'était aussi des créatures vivantes, sensibles, capables d'aimer, et donc pour ça il a été exclu de son ordre. Pour moi, c'est vraiment s'il existe des formes d'autorité, c'est toujours pour les remettre en question en permanence, de manière à ce qu'on n'ait pas, justement, comme le disait Robin, d'abus de pouvoir, d'abus des personnes qui gouvernent, d'abus de concepts d'administration, de politique et autres.
Patrick, est-ce qu'il y a des bœufs carottes qui contrôlent les magiciens, la guilde des magiciens chez vous ?
Et non, mais c'est vrai qu'on aurait pu y songer. Après. C'est, s'il y avait des bœufs carottes, il faudrait encore créer un organisme qui lui-même contrôlerait les bœufs carottes. Parce que non seulement, à mon avis, le pouvoir magique ou dans notre monde, c'est même pas en fait qu'il y a un risque d'en abuser. C'est que la tentation est tellement grande que de toute manière, on en abuse, quoi. Ça se voit tous les jours, partout. La justice fonctionne de toute manière à deux vitesses dans les faits. Alors, effectivement, on est arrivé tout de même à un semblant d'équité, mais on sait tous que les détenteurs de l'autorité ne paieront jamais leurs abus et leurs excès de la même manière que les gens du commun, que vous et moi, quoi. Il suffit de voir que des policiers, par exemple, roulant sur la route, des ministres se rendant d'un point à l'autre, commettent des infractions incroyables, quoi. Les gars, ils roulent à 200 km/h, ils grillent tous les feux. Voilà. Et bien sûr, ils ne sont pas condamnés, quoi. Si c'est le chauffeur du Premier ministre qui fait ça, on ne va pas venir me faire croire qu'il va prendre un retrait de points, quoi. C'est pas vrai. Donc, voilà. Et dans le monde fictif, dans le monde magique, c'est absolument la même chose, quoi. Ça fonctionne pareil, sauf que les implications sont en général nettement plus dramatiques pour nos héros, et que là, il ne s'agit pas d'un retrait de points. Il s'agit juste de perdre sa vie, son âme, et encore bien plus, éventuellement.
Y a-t-il une police de la route pour vos magiciens, Cindy ?
Définitivement pas. En même temps, ça se passe. L'intrigue des Outrepasseurs se passe dans notre monde. Donc, qui dit société secrète dit forcément société qui se soustrait aux autorités que nous, forcément, en tant qu'humains lambda, nous connaissons. Et ce sont très clairement, disons-le clairement, des gens qui abusent, des esclavagistes, des gens qui n'hésiteront pas à exercer leur pouvoir. Et en même temps, c'est là le paradoxe que j'ai voulu créer avec ces outrepasseurs. Ce sont des gens qui ne peuvent pas faire autrement, qui doivent quelque part exercer leur magie, sinon ils peuvent de toute manière aller se suicider dès qu'elle se manifeste en eux. Ils n'ont pas d'autre choix que soit de l'exercer, et il y a un cadre très précis dans lequel ils peuvent l'exercer, sans vouloir spoiler, ou sinon, il n'y a pas d'autre choix pour eux.
C'est intéressant cette thématique de « on est magicien, donc il faut exercer la magie, sinon c'est la mort ». Qu'en pensez-vous, Robin ?
I think that has all kinds of possibilities, and we often, you know, see the flip side of the limit, that if you use the magic too much, you will die. But to be forced to use it, I'm trying to remember that I think there was one book I read long ago that had a similar premise, but I think it has wonderful possibilities for 1,000 stories. I'm trying to think if there are any parallels in our real world. And I suppose, in a way, it is similar to being an athlete, where if you do not continue to practice, you will lose your power. But that is not to say that you die. So it's a very interesting premise.
Je pense que ça ouvre tout un tas de possibilités. On voit le côté pile de ce dilemme où si l'on n'utilise pas cette magie, on meurt. On voit aussi l'autre côté où si l'on l'utilise trop, on meurt. Mais le fait de l'utiliser, d'être forcé à l'utiliser, est un concept très intéressant. J'essaie de me rappeler d'un livre que j'ai lu il y a longtemps qui proposait un concept un petit peu similaire. Mais je m'en rappelle pas. En tout cas, je pense que c'est une idée merveilleuse qui ouvre le potentiel pour un millier d'histoires. J'essaie de réfléchir et de trouver un parallèle dans notre monde réel. Ce que je vois de plus proche, ce seraient les athlètes de haut niveau qui sont forcés de continuer à pratiquer leur sport, sinon ils perdent en un sens leur pouvoir, mais ça va pas aller jusqu'au fait qu'ils en meurent. En tout cas, je pense que c'est un concept très intéressant.
Ma prochaine question est encore pour Robin. Ce qui est chez vous sans doute assez inattendu, c'est de voir des objets dotés de vie, ce sont les vives-nefs. Est-ce que ces vives-nefs, c'est une manifestation animiste de la pensée magique ?
Oh, I will try to answer that without doing any spoilers. The live ships only become animated because of the material from which they are made, and they only become animated under very precise circumstances. So I think I have to stop there, or it will be a major spoiler for anyone who is in the process of reading the books.
Je vais essayer de répondre à ça sans dévoiler les secrets de l'intrigue. Les vives-nefs deviennent animées sous des conditions très particulières. Il y a déjà le matériau dont elles sont faites. Et aussi, il faut qu'il y ait des circonstances extrêmement précises et particulières qui vont conduire à leur animation. Je crois que je vais juste en rester là pour éviter de dévoiler trop l'intrigue s'il y a ici des gens qui sont en train de lire les livres.
Alors, je garde la ligne de mon idée. Est-ce que l'emploi de la magie et la magie en elle-même, Charlotte, ne nous ramène-t-elle pas à un monde primitif ? N'est-ce pas en fin de compte une pensée réactionnaire ?
Depuis quand le monde primitif est une pensée réactionnaire ? En fait, En fait, là, le mot primitif m'a fait penser à du chamanisme et plutôt à une sorte de... J'irais presque d'accord avec la nature, ou simplement le fait que, par exemple, là j'ai un exemple qui n'a rien à voir avec des romans, mais que dans certains coins du Maroc, les Berbères, en fait, accordent une existence donc aux genoux, et donc vont avoir des arbres qui ont des esprits, ce genre de choses. Je trouve que c'est une manière aussi très jolie de voir le monde. Et c'était quoi la question déjà ? C'était si la magie était réac. Non, je crois que c'est peut-être à une autre manière de voir le monde ou d'envisager le monde. Après, on peut aussi considérer que la magie est présente dans un roman parce qu'on n'a pas d'iPad, hein, c'est une possibilité aussi. Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est d'imaginer une magie qui est en lien effectivement avec des éléments, qui est en lien avec des sentiments ou des émotions, et d'essayer de voir quelle forme on peut lui donner, en fait. Par exemple, dans l'univers de l'archipel, il y a cette forme de magie vraiment qui est liée aux éléments. J'avais vraiment imaginé au départ, oui, les possibilités de ressentir en fait les émotions des autres, voire après de les manipuler, mais ça nous ramène aux questions de volonté de puissance. Et voilà. Je ne sais pas si... C'est dimanche quand même.
Ça fait deux fois que vous le dites, hein, Charlotte. Le pouvoir sur la nature, le pouvoir sur les gens, c'est le principe de la magie. Est-ce que c'est, Cindy, la métaphore de ce que notre monde d'aujourd'hui est capable de faire à la nature et au peuple?
Bonne question. Surtout pour un dimanche, en fait.
Vous êtes sortis ensemble?
Certainement. Oui, bah, de toute manière, on voit chaque jour la mille et une manifestations du pouvoir de notre société sur son environnement, sur les gens qui la peuplent. Et c'est là, bien sûr, tout un paradoxe, hein, puisque notre société a été organisée par nous-mêmes, mais quelque part, nous sommes, je vais pas dire ses premières victimes, mais nous pouvons l'être, en tout cas, oui. Donc, que la magie obéisse quelque part aux mêmes lois, ça me semble logique, quelque part.
Patrick, en fin de compte, l'utilisation de la magie dans vos livres, est-ce que c'est pour rendre jaloux le commun des mortels qui n'en possèdent pas la force?
C'est surtout pour leur mettre grave dans la tête. Non, mais en tout cas, bon, ça je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la magie dans mon univers. Je dis mon univers parce que toutes mes séries évoluent dans un univers partagé. Elles sont indépendantes les unes des autres, les hauts-compteurs sont indépendants des héritiers, qui eux-mêmes sont indépendants de ma prochaine saga qui se déroulera pendant sous l'Angleterre victorienne. Mais en tout cas, la magie dans mon univers est toujours sanglante. Elle est sanglante et douloureuse. C'est une magie, par exemple, Hermès, donc le méchant principal de la saga des héritiers de l'Aube, ne peut pas susciter son pouvoir sans verser le sang. C'est chez les Fomorés, de toute manière, c'est comme ça, c'est ainsi. On ne peut pas, initier un acte magique s'il n'y a pas un sacrifice. Ça me paraît, moi, quelque chose de très important.
C'est le prix à donner.
Voilà, exactement. Et voilà, il ne s'agit pas juste de faire tac-tac, je lève le bras et je t'expédie dans la dimension noire où tu passeras les 3000 prochaines années. Il faut d'abord égorger quelqu'un, par exemple.
Ça serait tentant de le faire sans égorger quelqu'un, pourtant.
Oui, mais ça serait quand même moins fun, non? Tout de même.
En fin de compte, dans le monde qui est le nôtre, où une forme de magie, en tout cas, est omniprésente, celle de l'Internet, des téléphones portables, de Twitter et de Facebook, est-ce que la magie dans les livres est encore utile? Robin.
Well, I think when we talk about magic in the modern world, we'd be talking more about the urban fantasies that we're writing now. And any extraordinary power, no matter the technological level, is always useful. We are always leveling it up to the next device, and so I would think that that absolutely, if I had a power that was separate and independent of technology, if I could shut down the internet, I would be tremendously powerful. Or so, to use magic in a modern setting or a technological setting, I think, you know, we've seen this done in a lot of the urban fantasies we get, and the idea that even in the Harry Potter books, that there is a layer of people who have magic and are moving amongst us, and if they are of evil will, can control us. Absolutely, the magic still works as a device then.
Je pense que si l'on parle de la magie placée dans un décor moderne, ça nous ramène à la fantaisie urbaine qui s'est beaucoup développée ces derniers temps. Toute forme de pouvoir externe se révélera toujours utile et on pourra toujours utiliser cette magie et la confronter au prochain gadget technologique qu'on récupérera. Je pense que dans l'absolu, si j'avais un pouvoir séparé ou qui soit indépendant, qui ne dépende pas de la technologie, par exemple si j'avais le pouvoir de couper Internet, ça me rendrait extrêmement puissante. On peut tout à fait utiliser la magie dans un décor qui soit moderne ou technologique, et ça nous donne la fantaisie urbaine. On a ça par exemple dans les livres, dans la série Harry Potter, où on a une certaine catégorie de gens qui savent pratiquer la magie, qui évoluent parmi nous. S'ils sont de mauvaises intentions, oui, bien sûr, ça fonctionne tout à fait pour raconter des histoires.
Charlotte, et pour le succès de la fantaisie, vient-il précisément de ce besoin qu'ont les lecteurs de se retrouver dans un monde qui n'est pas aussi rationnel que le nôtre, peut-être?
Peut-être que c'est aussi effectivement l'envie de rêver, et aussi parce que les univers de fantasy, donc au-delà effectivement des cadres magiques, sont des lieux où tout est possible, où l'on peut finalement interroger le réel, où on peut interroger l'humain. Parce qu'effectivement, bon, j'allais dire, en reparlant de magie, vous avez effectivement des gens qui vont se transformer en monstres parce qu'ils sont dévorés par la volonté de puissance ou par leur propre magie, parce qu'on a besoin aussi en tant qu'humain de se confronter à l'autre, et que créer ou lire, créer un univers de fantasy ou lire un ouvrage de fantasy, c'est aussi se donner cette possibilité là, et d'aller pour moi le plus loin possible dans le questionnement sur l'humain et aussi du coup le rêve et la création.
Patrick, je voudrais vous demander la même chose. Pourquoi la magie aujourd'hui a-t-elle du succès via les livres de fantasy?
Je pense avant tout parce qu'elle correspond à un besoin d'évasion. Les mondes imaginaires, c'est quand même merveilleux. On peut s'évader, on peut échapper à son quotidien qui, pour être malgré tout très sympa puisqu'on est vivant, c'est quand même l'essentiel. Pour être très sympa, il n'en reste pas moins contraignant et parfois un petit peu terne. Les gens n'ont pas toujours la chance d'exercer une profession qui les passionne. Et donc, c'est super de pouvoir s'évader. C'est avant tout la première raison, la première utilité des univers surnaturels, des univers fantastiques que nous créons. Je crois que c'est d'apporter du rêve et de l'évasion aux lectrices et aux lecteurs.
Et Cindy?
Pour moi, bien sûr, parce qu'elle est source d'évasion, comme on vient de le dire, source de rêve, source d'imagination, mais je pense qu'elle est aussi source de réflexion. C'est un paramètre supplémentaire, notamment dans les livres d'imaginaire, grâce auquel on peut aussi réfléchir et avoir une autre vue sur notre société et tout ce qui la compose aujourd'hui.
Eh bien, et moi, j'ai le pouvoir de mettre fin à ce débat en remerciant Cindy Van Wilder, Patrick Masper, Charlotte Bousquet et Robin Hopp qui, eux, elles, ont le pouvoir de nous enchanter grâce à leurs livres. Je les remercie et je vous remercie beaucoup.
Merci. Merci beaucoup.